un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ils enseignent dans des quartiers populaires par choix, par devoir, par envie de transmettre leur savoir et les fameuses valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité. Impuissants, cependant, à combler à eux tout seuls les inégalités de facto qui conditionnent la vie de leurs élèves, inégalités sociales, culturelles, économiques, géographiques, ils s'obstinent depuis des années parfois à faire leur travail du mieux qu'ils peuvent. Certains y croient encore, un autre semble avoir baissé les bras. Lors des émeutes du mois de juin qui ont suivi le meurtre de Naël, ce sont parfois leurs élèves qui sont descendus dans la rue. Parfois eux qui ont brûlé ou détruit les symboles de cette République à laquelle ils ne croient plus. Ou ce sont eux qui ont assisté à la destruction de leur propre quartier. Sur le coup, ils ont vu, eux aussi, les émeutes impuissants, inquiets, accablés, ou au contraire, en colère, déterminés à soutenir leurs élèves arrêtés ou à agir, à s'indigner de ces nuits de colère bafouant leurs valeurs. Nous avons aujourd'hui rencontré trois professeurs d'histoire-géographie qui enseignent en lycée et ont une expérience et une interprétation très différentes de ces émeutes et de ce qu'elles disent de leurs élèves. À Aulnay-sous-Bois, il y a Léo Cloquener et Manel Benboubacar et en Seine-Saint-Denis également, mais dans une ville dont ils préfèrent taire le nom, Kevin Bossuet. Ce sont donc trois profs et trois récits parfois radicalement dissonants qui choqueront peut-être les uns et conforteront les autres par Émilie Chaudet et Rémi Dibowski-Douat.
Moi je m'appelle Léo, je suis prof d'histoire-géographie en lycée, dans un lycée d'Aulnay-sous-Bois, donc en grande banlieue parisienne, dans lequel la majorité des élèves habitent dans les quartiers nord d'Aulnay, c'est-à-dire dans ce qu'on pourrait appeler des quartiers défavorisés, ou en tout cas des quartiers qui, en ce qui concerne les violences policières, sont des choses dont les élèves parlent régulièrement. Au moment de l'assassinat de Naël par la police lors du contrôle sur la route, à ce moment-là, moi, j'avais plus cours, puisqu'on est à la fin de l'année scolaire. Et donc, moi, en fait, je ne vois aucun élève à ce moment-là. Très vite, une fois que les premières nouvelles informations tombent, on comprend, en fait, qu'il s'agit encore d'un cas de violence policière avec des conséquences extrêmement graves. Et en fait, à partir du moment où ça devient véritablement une affaire et plus seulement un fait divers, à ce moment-là, je me dis très vite... que c'est dommage que je ne vois pas mes élèves. J'ai ressenti une inquiétude de me dire « j'espère qu'ils vont pouvoir trouver des espaces de parole pour parler de tout ça ». Je me suis demandé en fait qu'est-ce que ça fait à des adolescents racisés qui ressemblent à Naël, qu'est-ce que ça leur fait de se dire « il pourrait m'arriver la même chose ». Et puis une autre inquiétude, c'est la crainte qu'il y a un nouveau cas d'une personne assassinée ou d'un mort pendant les débordements et les épisodes de violence qui suivent, l'inquiétude très concrète de me dire j'espère qu'il va rien leur arriver. L'affaire Naël, c'est un point de bascule pour moi en tant que prof. Je crois que c'est aussi un point de bascule pour les élèves. Là, c'est la rentrée scolaire et j'ai rencontré une partie de mes classes. Et j'ai fait remplir à des élèves de seconde un petit questionnaire pour apprendre à les connaître un peu mieux. Et je leur posais une question en leur demandant notamment « Est-ce que tu considères que tu as vécu un événement historique ?» Pour après qu'on puisse réfléchir un peu à qu'est-ce qui fait l'événement et si oui, lequel, etc. Donc il y a tout un tas de réponses qui vont de... des premiers exploits sportifs, la pandémie qui était au rendez-vous également dans les réponses, la guerre en Ukraine. Mais il y a quand même un grand nombre d'élèves qui ont écrit les émeutes. Donc évidemment, ça marque un point de bascule pour moi parce que c'est quelque chose dont j'ai été amené à parler avec eux. Ce que je peux entendre de ce que disent les élèves dans leur indignation, derrière, ils attendent des choses de l'État. Ils croient dans le fond, dans les principes de l'État, c'est-à-dire des forces de l'ordre dépositaires du monopole de la violence légitime, qui donc doit s'exercer dans un cadre défini, pas de manière arbitraire, sans enlever la vie aux personnes sur lesquelles elle s'exerce, etc. Et à aucun moment, jamais dans ces discussions, il s'agit de tout envoyer valser, quoi. Il s'agit de demander, en fait, à ce que les choses soient dans l'ordre, justement. À aucun moment, on est dans un rejet, quoi, du système, en fait. Ils attendent des choses du monde des adultes, donc c'est normal, ce sont des enfants, c'est rassurant, et en même temps, c'est triste aussi, puisque l'ordre des choses dans le monde des adultes est quand même sans dessus-dessous, en fait, en réalité. Et donc, comment, en fait, ces jeunes-là vont se projeter, vont se construire dans un monde qui va pas très bien? Comment on grandit, comment on s'épanouit dans un monde où on appartient à un groupe social qui est menacé, quoi? Après la mort de Naël, lors de la marche qui a eu lieu à Nanterre, j'arrive juste après le départ de la manif, donc je cherche un groupe d'amis pour les retrouver, dont une bonne partie étaient des collègues ou des militants du monde de l'éducation antiraciste, donc en grande partie des personnes racisées. Et puis j'arrive un peu en retard et je me rappelle que j'ai eu un mouvement très bref, hein, mais un peu d'enthousiasme en retrouvant le groupe. Et en fait, je les ai trouvés très effondrés. Évidemment, du coup, tout de suite, j'ai été gagné par la gravité du moment. Et ça m'a fait énormément réfléchir aussi, parce que ça, c'est un moment qui, pour moi, dit comment on peut vivre différemment les choses. Évidemment, je peux avoir beaucoup d'empathie, je peux vouloir que tout se passe bien pour mes élèves, mais voilà, la réalité sociale fait que je ne partage pas leur expérience. Et je ne la partagerai jamais. Moi, je suis blanc, donc je suis bourgeois. J'ai grandi dans le centre de Paris, dans un milieu favorisé. J'ai du capital culturel, social, etc. Je pense que je suis de gauche. Je connaissais la réalité des inégalités sociales. J'ai fait des études de sciences sociales. Donc évidemment, j'ai re-expérimenté une fois de plus que moi, je vivais les choses à travers ce que des fois les sciences sociales vont appeler le privilège blanc, mais... C'est-à-dire que moi, je peux avoir de l'empathie et en même temps, c'est pas mon corps que je vois victime de violences policières. Je ne me fais pas contrôler par la police, je ne suis pas victime de racisme, je suis pas exposé comme les autres. Et en fait, pourtant, quand j'ai fait ma première rentrée à Aulnay-sous-Bois, ce qui frappe évidemment, c'est que une partie des profs sont blancs et les élèves, sauf de rares exceptions, ne le sont pas. Et donc moi, enseigner dans ce lycée, ça a été découvrir vraiment la réalité de ce que c'est la ségrégation sociale et la ségrégation raciale.
Je m'appelle Kevin Bossuet, je suis professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis et j'ai en charge des classes de 6e et des classes de 3e. Donc le jour où les émeutes ont eu lieu, j'ai été pris d'effroi. J'ai été évidemment choqué, j'ai été un petit peu scandalisé parce que personne ne mérite de mourir sous les feux d'un policier. Mais d'un autre côté, je me suis aussi dit que ce jeune qui avait refusé d'obtempérer avait déjà par le passé refusé d'obtempérer. Et je me suis dit qu'il s'était mis dans une position compliquée. Naël n'avait pas forcément eu un comportement exemplaire. Finalement, il y a une forme de ressentiment, voire de peur vis-à-vis des policiers, vis-à-vis de la France. Le fait qu'un jeune adolescent préfère ne pas s'arrêter et finalement risquer sa vie, ça en dit long sur la manière dont notre société fonctionne. Il y a plein de choses qui m'ont choqué. Je crois que la première chose, c'est quand on s'en est pris au mémorial de la Shoah à Nanterre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Quel est le rapport avec la mort de Nel? Pourquoi s'en prendre à ce mémorial? C'est-à-dire que je me suis dit, on ne respecte même pas notre histoire, on ne respecte même pas notre mémoire. Les gens qui étaient autour tenaient des propos qui étaient révoltants et qui étaient choquants. Je me suis dit, mais quel est le lien entre l'antisionisme? Parce qu'il y avait des slogans antisionistes et cela. Voilà, ça m'a choqué. Ensuite, il y a aussi quand on s'en est pris un petit manège. Alors ça m'a marqué, parce que finalement, on s'en prenait à l'enfance. On s'en prenait à des personnes qui n'avaient absolument rien demandé. Alors, ce qui m'a choqué également, c'est le fait de mettre le feu à une école, voir une école brûlée. Mais c'est pour moi qui ai choisi d'enseigner, mais c'est le choc, s'en prendre à une médiathèque, brûler ce qu'il y a de plus précieux finalement dans les banlieues. Il faudra des mois pour reconstruire avec des gamins qui ont laissé parfois leur petit cahier qui ne le retrouveront jamais parce que ce cahier a été détruit par les flammes. Oui, ça m'a choqué. Ensuite, quand on s'en est pris également un tramway, au moment où il y a eu cela, c'était la correction du brevet. Et moi, j'ai corrigé le brevet des collèges et le tramway ne fonctionnait pas. Et je voyais tous les gens pénalisés. Tous les gens, pas les petits bourgeois, pas les policiers, mais les gens des banlieues qui étaient pénalisés par le fait que le tramway ne marchait plus. Donc je me suis dit, mais quelle est la logique dans tout cela? Qu'on puisse se révolter, qu'on puisse être contre la police, qu'on puisse s'émouvoir parce qu'un adolescent est mort. Très bien, je le comprends, mais s'en prendre à ce qui fait fonctionner ces banlieues, s'en prendre aux moyens de transport de son oncle ou sa tante qui va travailler, mais je n'ai pas compris. Et quand on s'en est pris à ce maire Vincent Jeanbrun, je me suis dit, on ne s'en prend plus qu'à des choses matérielles, on s'en prend à l'être humain. Je me suis dit, mais où allons-nous aller dans la violence? Donc on a observé après l'action de la justice qui, je trouve, n'était pas compréhensible. Alors d'un côté, on a voulu taper très fort. On a voulu faire des exemples. Je n'ai rien contre la culture de l'exemple. Moi, je trouve que c'est aussi important. Mais parfois, une peine de prison pour un vol dans un magasin, très bien, c'est donné, il faut faire des exemples, il faut punir, très bien. Mais il y a eu une forme d'incompréhension aussi chez les jeunes de banlieue, et moi j'ai pu le ressentir. Mais monsieur, est-ce que vous vous rendez compte? Donner deux peines de prison parce qu'on a volé une paire de chaussures. Alors moi je suis plutôt en accord avec ça. Moi je suis pour de la fermeté, je suis pour que la justice arrête d'être laxiste et qu'on condamne vraiment ces exactions pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Souvent, on a quand même une justice très à gauche, quand vous avez un gamin qui commet une incivilité, qui se fait arrêter par le policier, qui est relâché aussitôt, il n'a pas conscience d'avoir commis quelque chose de mal. Finalement, on a l'impression, en banlieue, d'avoir des gamins qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes et qui ne sont pas assez encadrés. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans ma carrière, c'est qu'il y a des gamins qui réclament des sanctions, il y a des gamins qui réclament de la fermeté, il y a des gamins qui réclament un cadre, et finalement, on ne leur donne pas. Vous savez, quand vous êtes un adolescent, vous cherchez les limites. Chose qui n'a pas été bien faite, sanction. On comprend pourquoi la sanction, on fait la sanction, et là, l'élève comprend qu'il doit revenir dans le cadre. C'est ça, poser un cadre, et c'est ce que réclament les élèves de manière générale. Et la plus grande partie des jeunes dans les cités. J'ai été aussi choqué par des propos. Des propos mettant en avant l'excuse sociale, toujours. Il y a une part de problèmes sociaux, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des problèmes culturels, il y a aussi des problèmes identitaires, de gens qui ne se sentent pas appartenir à la société française et qui se révoltent contre et qui, finalement, acquiescent quand on s'en prend à une mairie, quand on s'en prend à une école. Donc c'est un échec. Quand des adultes excusent ce genre de choses en donnant une explication qui ne tient pas debout, le racisme de l'État, le racisme de la police. Il y a dans la police des problèmes de racisme, mais la police n'est pas raciste en soi. Donc dire que la police tue ou dire qu'il y a du racisme systémique dans la police, ça me choque. Quand on dit que l'État est raciste, non, mais moi, en tant que prof de l'éducation nationale, évidemment que je ne peux pas dire que l'école est raciste, l'école accueille tous les élèves, quel que soit leur milieu, quelles que soient leurs origines sociales, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines ethniques, comment on peut dire que l'école est raciste et comment des adultes peuvent tenir ce discours? Je suis très en colère. J'ai été fatigué d'entendre parler d'excuses sociales. Évidemment qu'il y a des problèmes sociaux. Évidemment que la délinquance a aussi une cause sociale. Mais moi, je connais des mères de famille qui travaillent parfois la nuit et qui élèvent correctement leurs enfants, qui n'ont pas forcément d'aide et qui ont des enfants qui se comportent bien parce que, justement, elles ont fait l'effort. Donc l'excuse sociale, c'est pas possible. Parce qu'il y a des millions qui ont été déversés en banlieue, on donne quand même des moyens pour les écoles, il y a des jeunes qui s'en sortent très bien. Moi j'ai des élèves qui ont réussi, qui aujourd'hui font Sciences Po, qui aujourd'hui font HEC, qui aujourd'hui sont en fac de médecine et qui ont toujours respecté la police, qui ont toujours respecté l'école, qui ont toujours respecté la République et qui ont même développé une forme de patriotisme tout en étant fiers finalement de leurs origines. Le patriotisme, c'est quelque chose d'important parce qu'on ne fait pas de mal vis-à-vis d'un pays qu'on aime. Je veux dire, on détruit les écoles, on détruit les mairies d'un pays qu'on n'aime pas. Et le problème, c'est véritablement des jeunes qui parfois ne se sentent pas français, voire disent « j'aime pas la France, nique la France, je ne me reconnais pas dans ce pays, je préfère retourner au bled ». Et je me dis « mais qu'a-t-on raté ?» Parce que moi, si j'ai choisi ce métier, et j'ai choisi la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté véritablement de sortir ces jeunes de la Seine-Saint-Denis, de leur faire connaître l'ascension sociale, comme moi, j'ai pu connaître aussi une petite forme d'ascension sociale, et je me dis, mais quel échec ! Et puis, j'ai encore revu mes élèves après, je me suis dit, mais évidemment que je peux être utile, évidemment que ces gamins ne demandent qu'à s'épanouir, ces gamins ne demandent qu'à connaître l'ascension sociale, et voilà, je me suis dit, non. Tout n'est pas perdu, il faut repartir et il faut continuer à faire vivre cet idéal républicain sur des territoires où c'est compliqué.
Je m'appelle Manel Benboubaker, j'ai 37 ans, je suis professeure d'histoire-géographie depuis 12 ans maintenant, et actuellement je travaille à Aulnay-sous-Bois dans un lycée. J'ai découvert la vidéo sur les réseaux sociaux de la mort de Naël, qui commençait à se diffuser de manière assez massive, et j'ai vu la vidéo, bien sûr j'étais sous le choc, et tout de suite je me suis dit, ça aurait pu être n'importe quel enfant que j'ai connu. Ça pourrait même être mon fils plus tard. Et puis je me suis dit, la vidéo est tellement violente, c'est tellement en train de tourner, que ça va pas rester comme ça. Au moment où en fait il y a eu les révoltes, un soir je suis rentrée un peu tard, entre 23h et minuit, j'ai entendu un truc patapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatap mettre ensemble, il n'y a rien. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, soit c'est au Framoisin, Saint-Denis, soit c'est dans le Landy, de l'autre côté du pont, soit c'est vers la Mala, donc au fort d'Aubervilliers. Et c'est que le lendemain, en fait, que j'ai appris en regardant la vidéo qui tournait, où en fait, ils avaient envoyé des feux d'artifice sur le commissariat d'Aubervilliers de manière assez coordonnée. Voilà. J'arrivais pas à dormir parce que je me disais, mais en fait, il va se passer comme en 2005. C'est parti. Et du coup, moi, je fais partie d'une commission antiraciste dans le sein de mon syndicat. Donc, on a un groupe WhatsApp entre nous pour se coordonner, etc., mais aussi pour parler d'actualité. Et donc, c'était un groupe qui était très actif. Donc, je crois que je suis la première à écrire dans le groupe. Je dis, est-ce que ça pète chez vous aussi? Donc, moi, j'ai un camarade, il vit à Clichy. Il vit à côté de Nanterre, par contre. Et il me dit, ah non, mais moi, depuis hier, c'est parti en cacahuète. On a une camarade qui est à Montreuil, qui nous dit, ouais, moi aussi ça pète, j'entends des bruits, c'est, et on a une camarade qui est au lit là. Enfin, et du coup, on commence à parler un petit peu entre nous de là, on est dans nos lits, en fait. Et parce qu'on dormait pas la nuit, on était angoissés. Et du coup, bah, on a parlé comme ça pendant, je sais pas, jusqu'à peut-être 2h30 du matin. Donc, sont allés vraiment vers des lieux très institutionnels, hein, le commissariat, la piscine olympique, la mairie, la banque. À Saint-Denis, c'était l'affaire du Carrefour. Donc aussi des secteurs économiques, il y a pas, c'est pas des voitures brûlées, c'est des lieux spécifiques choisis. Et dans les jours après la mort de Naël, dès le samedi, on était aux comparutions immédiates. Donc on a un groupe qui s'est constitué progressivement, qui a pour but de soutenir les jeunes interpellés par la police, qui étaient en comparution immédiate, leur fournir une aide juridique la plus qualifiée possible pour les soutenir eux et leurs familles. Et du coup, moi, quand j'y suis allée, la première affaire, donc c'était quatre jeunes, dont une fille, qui était en comparution. Et donc, c'était pour l'affaire de Carrefour de Saint-Denis, qui a été pillée, oui, par des jeunes. Donc, eux, en fait, ils sont rentrés et ils ont filmé. Donc, la cour a décidé qu'en fait, ils iraient en prison ferme pendant 6 mois. C'est extrêmement grave. Pour certains, ils avaient passé 48 heures en garde à vue. Ils n'avaient même pas eu le temps de préparer leur défense. D'ailleurs, on ne leur a pas laissé. Ils étaient en comparution immédiate et ça passait à la chaîne. Ils étaient paniqués, ils n'arrivaient pas à parler. Ils étaient choqués, en fait. C'était la journée du samedi, c'était que des peines de prison ferme. C'est des peines qui sont très, très lourdes pour des gens aussi jeunes. Il y a une gamine qui venait juste de sortir de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance. Normalement, il y a des obligations légales de contacter les éducateurs. Aucun éducateur n'a été contacté. Enfin, chaque jeune est différent. Et en fait, là, il y avait vraiment eu tout le monde dans un bloc. Pas de justice qui prend en compte tout l'individu et absolument pas le contexte non plus. Et en fait, c'était la journée du samedi, c'était que ça, toute la journée, que du ferme. Donc lundi. Donc c'était trois jeunes et eux c'était pour des faits qui se sont déroulés à Aubervilliers. Ça devait être de la destruction de biens. Et en fait, dans les pièces des policiers, il n'y avait pas de date et il n'y avait pas de signature. Et bien sûr, donc les avocats de la défense ont dit c'est pas valable, on demande, je crois, le renvoi. Donc la cour part pour délibérer, elle revient 10 minutes plus tard et donc dit bah, en fait on renvoie, donc vous êtes libérés. Et donc la salle applaudit. C'était la première nouvelle depuis 4 jours au tribunal. Et là le président il nous dit ah non, vous allez pas nous faire comme samedi de la politique. Donc si ça continue et qu'il y a encore le public qui applaudit ou qui crie encore pas de justice, pas de paix, moi je mets tout à huis clos. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, j'ai fait « Merde, il ne faut pas qu'on le mette contre nous et qu'il devienne encore plus répressif, que tout cela devienne du huis clos, parce qu'en huis clos, c'est encore plus violent pour les jeunes, parce qu'ils sont seuls et qu'ils n'ont pas accès à leur famille, qui les regardent, à leurs proches, qui sont là, etc. » Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été compris par toute la pièce, parce qu'on s'est dit « Ah non, non. » Je me disais que c'est difficile, peut-être, d'être neutre à ce moment-là. Est-ce qu'on peut rester neutre face à une justice aussi expéditive? Je me suis sentie, après ces jours-là, impuissante. Impuissante face à notre capacité collective à réagir fortement face aux violences policières. Parce que pendant que nous, on essayait tant bien que mal de s'organiser pour aller au tribunal de Bobigny, entre-temps, la famille du policier elle a reçu plus d'1 million d'euros. Et en fait, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Le résultat reste quand même très dur pour les jeunes. Des jeunes qui étaient entrés à Carrefour pour prendre des photos, parce que voilà, parce qu'il y a tout le quartier qui y va, et en fait ils prennent 6 mois ferme. Alors que lui, il a tué quelqu'un, et sa vie elle continue, il peut la reconstruire, il a 1 million d'euros. Franchement, moi, je me sens impuissante. Et déprimée et dégoûtée de vivre dans ce pays. C'est le sentiment. Moi, j'avais pris un verre après avec des copines. On était une personne blanche et trois personnes racisées, deux femmes noires et moi. Et on parlait de comment partir. On est toutes profs. Hein. Je veux dire, on est profs, on est installés, on a nos métiers. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Ça dégoûte. Et moi, ça m'inquiète parce qu'en fait, c'est une histoire qui va se répéter sur mon fils, sur mes élèves, sur les enfants de mes amis. Je me sens impuissante parce que je me dis, je peux pas ne pas lutter. Voilà, je peux pas dire j'oublie ma vie et puis je vais partir loin, etc. Je peux pas faire ça. Et en même temps, quand je fais du collectif, je vois pas de changement majeur. Quand vous voyez qu'il y a eu un non-lieu pour Adama, enfin, vous vous dites, bon, c'est ça l'impuissance. Ça, c'est l'impuissance, la vraie. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed to try to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far.
C'était N'enterre pas tes rêves, deuxième épisode avec les profs, un reportage de Émilie Chaudet et Rémi Dibowski doit être réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à nos trois enseignants, à Léo, à Manel et à Kevin. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Zoé Coupé et notre stagiaire, c'est Hortense Martin. I've put my trust